Vous écoutez
RMC.
Lors des différentes éditions de la Ligue des Champions, on parle souvent tactique, on dit voilà les grandes tendances, les coachs qui font un peu la différence, qui ancrent des nouveautés dans le football. Est-ce que ça arrive aussi en Coupe du Monde ça ? Est-ce qu'on a un souvenir tactiquement de grandes innovations révélées lors de Coupe du Monde récentes ?
Non, je ne crois pas. Je pense que la Coupe du Monde révèle souvent des individualités, des talents, des gars qui vont mettre 6 buts sur une compète et qui les mettront plus après. Ça, on a mille histoires de ce type-là. On a des sélections qui vont être surprises, qui vont briller, qui vont nous épater, dont on va garder un fort souvenir. Je sais pas, comme le Brésil 82 et qui pourtant n'est pas allé au bout, ou le même 4 ans plus tard qui n'est pas non plus allé au bout. Mais le foot de Coupe du Monde, c'est plus un foot d'émotion. De gens qui sont derrière leur pays, de matchs qui peuvent se terminer au péno, de matchs couperet, et donc qui se jouent avec une grosse tension, une grosse pression, mais on n'a pas de grand événement tactique dans une Coupe du Monde. On a, quand une équipe pratique un football qui a l'air d'avoir été élaboré, si on pense à l'Espagne de 2010 notamment, on est plus dans un football qui en fait reproduit ce qu'un club fort dans un pays fait. Parce que c'est le club dominant et qu'une grande majorité des joueurs de l'effectif appartiennent à ce club-là et qu'il a cette identité. C'est le Barça et son influence sur l'Espagne. C'est l'Italie avec 5 ou 6 mecs de la Juve et donc une empreinte et un jeu qui va ressembler à ce que pratiquait le club. C'est plus des choses comme ça qu'on va avoir, des aventures humaines, mais on va pas avoir d'évolution tactique. Je me souviens même en 94 de l'Italie qui était pourtant entraînée par Sacchi. On a absolument pas vu une seule seconde ses principes de jeu à lui et le football que lui faisait pratiquer quand il était à la tête d'un club. C'est donc un football d'aventure humaine, un football d'émotion, mais pas tellement un football tactique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que malgré tout, on verra gagner une équipe qui, comme on le dit beaucoup en ce moment, est capable de presser, est capable de jouer à haute intensité, est capable de d'évoluer très haut sur le terrain, ou est-ce qu'on va avoir plutôt le contraire, une équipe qui va jouer bas et qui va contrer? Ça, c'est le mystère effectivement après du vainqueur ou des équipes qui vont loin et des surprises qu'on va découvrir tout au long de la compétition. Mais dire une équipe elle joue remarquablement bien et forcément elle va gagner, ça j'y crois pas à ça.
Non, en fait, je pense que ça existait, mais ça n'existe plus. C'est-à-dire que je pense, et c'est tout l'intérêt du football de club qui est devenu plus puissant que le football de sélection. C'est-à-dire que si tu remontes au football total, tu sais, des Pays-Bas, tu sais, à la Coupe du Monde 74.
Mais c'était l'Ajax.
Ouais, c'était l'Ajax. Mais si tu veux, c'est vrai qu'aux yeux du monde, si tu veux, ça
oui, c'était l'Ajax, plus important. Parce que t'avais même le même entraîneur,
et,
c'est dire.
Et après, avant 50, même le Brésil.
Ce qui vaut aussi pour l'URSS d'ailleurs, ouais. Avec Lobanovski,
Dynamitis. Oui, parce que là, non seulement tu prenais une ossature, mais en plus, parfois, tu prenais l'entraîneur.
Mais le Brésil, en 58, ou même, et je vais te dire, la dernière fois où il y a peut-être eu quelque chose qui a ressemblé à, et c'était le début du foot hybride en fait aujourd'hui, c'est-à-dire quelque part un foot où tu changes ta tactique, tu mets du solide derrière, et t'es prêt après à faire évoluer ton schéma tactique en fonction de l'adversaire, c'est 86 peut-être avec la défense à 3 et de l'Argentine, et que voilà, et on a vu 2-3 choses comme ça, mais depuis 86 je suis assez d'accord, depuis 90 quoi, disons de la Coupe du Monde, à partir de là je dirais qu'il y a surtout en fait même quelque part des principes défensifs, c'est-à-dire de dire on gagne une compète en ayant une bonne défense. Et après, tu
94,
fais
94, j'ai le souvenir de la Colombie, de Maturana, qu'on nous vendait comme une équipe, tu sais, le fameux toqué.
C'est bon, c'est bien. Non, Je parle plutôt pour aller au bout.
Et donc, de ce qui reste quelque part, effectivement, tu ne restes pas scotché, mais tu restes dans l'idée que tu peux, dès 86 d'ailleurs avec Maradona, mais avec une solidité qui sera incarnée en équipe de France également par la défense. C'est le milieu français.
Moi, je vois une exception.
Et derrière, effectivement, tu n'as pas de révolution tactique. Ouais. Mais en revanche, tu sais que si tu as, tu vois, l'idée de Deschamps, c'est pour ça que je dis qu'il se met dans un risque en ayant ces 4 offensifs. Ça a été quand même de se dire soyons solides, laissons les solistes nous épater, et puis on va essayer de gagner. Oui.
Une exception à ça, où réellement un sélectionneur a travaillé sur la durée en se disant on aura une identité en sélection avec des mecs qui venaient pas forcément du même club. C'est l'Allemagne de Joachim Löw. Lui, il a voulu, même quand il est simplement adjoint en 2006 de Klinsmann, installer des principes de jeu, et le gars qui venait en sélection, exactement comme dans un club, les appliquait. Et la période, elle est longue, hein, la période de Joachim Löw. Il a commencé à juin. Ça joue encore bien à chaque fois, hein. Ça joue bien, ça gagne pas, mais ça joue très bien avec la même identité tactique, technique en 2010, en 2012. Et ils finissent l'aboutissement, c'est ils sont champions du monde en 2014. C'est la seule exception de coach qui s'est dit sur la durée. Ouais, mais je vais installer une identité, mais sinon c'est du pragmatisme et c'est du.
C'est tout un football qui s'est réinventé aussi avec l'Allemagne.
Bien sûr, absolument.
Le sélectionneur n'a été que la fin de, la cerise sur le gâteau où il a fait partie du gâteau.
Mais il y a eu un long travail et la volonté de dire aux gars, vous venez ici, on va jouer comme ça.
Tu vois, par exemple, moi je reproche un petit peu à Didier Deschamps de ne pas s'être inclus aussi dans la DTN et dans le fait.
Mais parce que lui, son ADN était autre, et lui, pour le coup, il a fait son style de jeu.
Lui, il a fait.
Il a mis un style en place.
Bien sûr, il a mis un style en place.
C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il veut le changer sur cette compète.
Mais aujourd'hui, il y a quand même, et on en parle beaucoup, une uniformisation des pratiques dans le monde entier.
En club, en sélection, je ne sais pas.
Mais si, regarde, on parlait du Maroc tout à l'heure. Aujourd'hui, l'académie qu'ils ont, la façon de travailler, regarde la Norvège. La Norvège, aujourd'hui, ils produisent des joueurs pour un tout petit pays qui a des îlots partout. Et pareil, comme le Canada, ils sont moins 20.
On est que avec des sélections qui veulent courir.
Il y a une professionnalisation du foot mondial, que ce soit à tous les niveaux. Et bien sûr, au niveau des sélections, où aujourd'hui, même le Qatar travaille comme les grands pays.
Où on va courir,
bien sûr,
on va faire des kilomètres, on va bosser sur l'intensité, les sprints à haute intensité.
Tu sais ce qu'il y a,
si on ajoute les joueurs techniques,
tu sais ce qui a aussi énormément développé le football mondial, c'est Internet. Parce qu'aujourd'hui, tous les entraîneurs sont capables d'aller chercher des séances partout, de faire de la vidéo, de travailler sur les statistiques, de travailler avec les GPS. Et donc, avec cette uniformisation, comme je disais, des pratiques, des formations d'entraîneurs, des formations de joueurs, et ben, c'est ce que disait tout à l'heure Dimitrius, que ce soit en Amérique du Sud avec des pays comme l'Équateur, avec des pays comme la Colombie, qui travaillent beaucoup mieux avec beaucoup plus de moyens, et en Europe c'est pareil, et ben aujourd'hui t'as plus de petites nations, t'as toujours des très petites nations, mais c'est sur la population, sur les bassins de population. Mais aujourd'hui le Portugal travaille aussi bien que la France avec 11 millions de personnes et avec une économie qui est bien moindre.
Le truc important, c'est marrant parce que c'est sur les débats aussi qu'on a en fait, comme on sort de jeu à chaque fois des saisons en club, on applique des débats qu'on a en club.
Alors
et c'est vrai
pas.
Que même moi j'ai un switch à faire, si tu veux, quand je rentre dans la Coupe du Monde, parce que je pars de la façon dont tu fais le pressing, le contre-pressing, la façon dont les joueurs sont habitués ensemble.
La façon dont tu utilises tel joueur ou tel joueur.
Tu as demandé au Canada de jouer comme l'Allemagne de 70.
J'ai regretté que vous vous satisfaisiez d'un match médiocre. Vous avez aimé. Après,
oui, on s'adapte.
J'adapte mon niveau d'exigence.
C'est vrai que moi, je veux rester un peu sur un niveau Ligue des Champions. Et vous avez raison. Et Samuel Umtiti m'a éclairé là-dessus hier. Quand il a dit qu'effectivement, ne demandez pas à Didier Deschamps de reproduire un truc avec des joueurs différents de ce qui se fait au Paris Saint-Germain.
Et c'est vrai que je trouve que c'est très intéressant d'analyser cette adaptation et la façon dont le joueur va évoluer.
Moi, j'avoue que j'ai du mal effectivement parfois, parce que je vois une équipe qui commence en disant allez, bloc bas, on attend et on va voir. Tu dis, tu vois, un peu football d'un autre âge. Je vois les ballons là, aériens qui se sont renvoyés là dans le match de tout à l'heure pendant 3-4 minutes avec des coups de tête et des gros coups de boule et des touches longues. Je me suis dit, à un moment donné, je dis ok, je vais accepter que la mondialisation du foot.
Tout le monde ne doit pas jouer de la même façon. C'est ça qui est bien.
Moi, c'est ça que j'adore dans la Coupe du Monde, c'est que t'as forcément des continents, des équipes. Tu vois, moi, j'insiste, j'aime beaucoup la Corée du Sud et le Japon. Parce qu'ils sont formés de la même façon, ils ont la rigueur qu'ils ont dans la vie, ils l'ont sur le terrain. Mais comme disait, c'est toi Gilbert qui disait que ça manque un peu, peut-être, des fois de caractère, de vice.
Mais c'est pas leur culture.
Voilà. C'est des mecs, ils vont respecter l'arbitre.
Si demain, le Sud-Coréen, il arrive, il veut jouer comme un Argentin, je dis, qu'est-ce que tu fais? Ne te renie pas.
Sauf que je pense que le gars qui fera gagner, et moi, je suis d'accord, parce que j'apprécie beaucoup aussi, et je pense qu'elles vont performer comme d'habitude dans le début de compète, les sélections asiatiques. Et je pense que c'est celui qui les fera gagner, qui les fera aller encore plus haut, c'est celui qui va leur apporter cette touche-là supplémentaire.
C'est impossible, c'est culturel. Mais c'est impossible. Quand tu vois la culture japonaise, tu ne leur feras jamais râler après l'arbitre.
C'est pas eux, faut
pas abdiquer ça. T'as des joueurs qui sont différents des autres, après c'est des personnalités. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'essentialisation.
T'as envie que quand Ginli fasse un frontal avec un arbitre et qu'il truque et qu'il fasse.
Hey, le gars s'il fait une simulation, il est capable d'aller voir l'arbitre pour dire qu'il n'y a pas pénalty.
Je me souviens d'avoir vu Troussier animer les séances avec les Bafana en Afrique du Sud. Et c'était intéressant parce que justement, il est travaillé pour aller tout en jouant, parler à l'arbitre, de montrer, de contester, rajouter quelque chose.
Tu pourras pas. C'est quasiment impossible.
Non, mais je dis pas, il faut jamais dire jamais. Je te dis juste que c'est des choses. Je dis pas d'apprendre à truquer, moi. Je te dis juste d'apprendre à être un peu plus malin, d'être un peu plus, tu vois, astucieux.
Je sais pas, vous vouliez pas de ça tout à l'heure.
Mais
oui, je suis content que tu dises ça.
Comme si tu demandes à un Français de pas être râleur, c'est impossible. Ou que tu demandes à un Néerlandais de.
Faisons en sorte qu'on ne se ressemble pas.
Tu veux demander à un Néerlandais de pas payer le parking quand il laisse sa voiture au parkmètre? Mais c'est impossible. Les mecs, s'ils payent pas le parking, ils se sentent pas bien. Il y a un problème.
Néerlandais.
Ah mais bien sûr.
Et moi je fais quoi d'après toi?
Toi?
Bah toi, c'est quand tu le payes que t'es pas bien.
Mais exactement. Non mais toi déjà tu vas jouer au tennis dans le New Jersey sans payer. Donc
quelqu'un m'a demandé de l'oseille, tu racontes? On m'a rien demandé.
Non mais la note déjà, la note arrive après, Daniel.
Déjà,
moi j'étais pas bien.
Déjà, j'ai trouvé un cours magnifique.
J'ai vu qu'il y avait des caméras. Moi, je suis un Hollandais.
Il me suivait. Il disait, non, mais là, c'est pas possible. Hein. Là, c'est pas possible. On va pas pouvoir jouer là. Il y a quelqu'un qui va nous tomber dessus.
Mais moi, je suis Hollandais.
Moi, je suis Hollandais. Des contrats, calme. On va y arriver. Arrête de faire ton Néerlandais. On va jouer tranquille.
Lui, c'est un franco-italien.
On va jouer Renard.
Il prend la chaise. Il la met où il veut.
T'es un Néerlandais, mais t'as profité.
La chaise où il veut, excuse-moi. C'est Walid qui s'est pris pour un arbitre et qui a commencé à bouger la chaise et à venir s'installer sur la chaise. J'avais pas encore
Walid, il voulait prendre la raquette, mais il a vu le niveau. Il a dit non, moi j'y vais.
Bon, les gars, dans ce monde américano-mexico-canadien, y a aussi de la Ligue 1. Et oui, parce que Lens a un nouveau coach.
C'est pas vrai.
Il s'appelle Dino Topmoller. Et dans quelques instants, Paulo Breitner va tout nous dire.
Peut-être qu'il sera invité de
cet homme-là.
Mais c'est.
Il la prépare depuis une heure.
Il a voulu faire l'original parce que tout à l'heure il a été dépassé.
Ouais.
Il était sur sa petite barque et on a fait des vagues.
T'as vu le niveau,
on a fait des vagues.
T'as vu le niveau, la différence?
C'est là, les bonnes.
T'as vu?
Aucun problème. Tu voulais recruter Michael Carrick.
Ouais, moi
je trouve. Avoue que ton petit bateau il a pris l'autre tout à l'heure.
Tu te dis
il faut que je reprenne le dessus. Flo Gautreau,
là tu manques de mordant. Franchement.
Ah là, t'as vu le niveau là?
Son arbitre préféré?
Et là, on est chez Lidl.
L'arbitre préféré
est plus chez Fauchon.
Non, je sais pas.
Monsieur Fraise,
bien sûr. Ah. Eh oui, bien sûr.
Bien sûr, magnifique.
Magnifique.
Je valide.